L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Et on est mardi, Bernard Vacherot est là, comment ça va ?
Eh bien, mon cher ami, ça va. Apparemment aussi.
Oui, la semaine dernière, alors, moi j'ai appris des tas de choses sur les stigmates.
Eh bien, on en a
moi
encore.
Moi qui étais nul à stigmates dans l'école.
Parce que, oui, enfin moi j'ai été stigmatisé aussi à l'école, mais par d'autres manières. Bon. Bien, donc, je poursuis sur le sujet parce que...
Oui, déjà, la semaine dernière, écoute, vous disiez Catherine de Sienne,
On a un cas, par exemple, avec le prêtre italien, là, qui est stigmatisé, entre guillemets. Bon, tout d'un coup, son nom me file de la mémoire. Bon.
François II.
Non. Non, sûrement pas lui. Bien. Prudence sur ces faits de merveilleux, hein.
Bon, alors François d'Assise, mm-hmm. On n'a rien vu de ses stigmates de son vivant. Mm-hmm. Mais après sa mort, ouais. Quoi, il avait des gants avant ou quoi ?
Non. Ah. C'est-à-dire, si tu veux, pour répondre à cette question, très souvent, oui, il y a eu la tendance à mettre des gants parce que le stigmate ou ce qui est apparenté comme stigmate au point de vue médical ou psy, fait très mal à la personne qui en souffre. Bon. Donc, on a intérêt à lui offrir ou à lui mettre des gants pour éviter, à contactu, comme on dit, une souffrance éventuelle. Donc, en principe, dans des cas pareils, médecin, médecin généraliste, que, par exemple, médecin psychiatre ou neurologue, recommande effectivement le port de gants. Hein. Ou même, si des stigmates sont apparus au niveau des pieds, de nouveau, des chaussures, par exemple, mais des chaussures solides.
Hein. Il semble quand même que les stigmates, hein, qui, de point de vue religieux, sont les seuls validés, tout ça, mais existent. La plupart
mais
du temps.
Au point de vue médical, absolument.
Ça existe.
Bon, maintenant, reste à savoir s'il faut à tout prix leur voir un aspect religieux ou autre.
Et alors, du point de vue psychiatrique et psychanalytique, on dit que c'est une manifestation d'hystérie.
Tout à fait. Et tout à fait. Bon.
Donc, il faut choisir, saine ou hystérique.
Au point de vue psy, qu'est-ce qu'on appelle hystérie ? La définition est très floue, selon les écoles et les analystes de psychanalyse, hein, bon, c'est très très flou. Alors, pour en revenir au personnage qui nous intéresse, à savoir François, d'après les témoignages de l'époque que nous pouvons avoir recensés dans les écrits historiques, il aurait subi des peines affreuses et des purifications, comme on l'appelle, très douloureuses, qui semble avoir été aussi bien spirituel que physiologique. Il y a forcément une relation entre le spirituel et le physiologique. Hein. Il aurait été tourmenté, toujours d'après les témoins de l'époque, par l'esprit du mal. Au milieu d'un temps où sa santé fut visiblement ruinée et ses forces épuisées, il reçut le 14 septembre 1224 les fameux stigmate. Psychiquement et spirituellement éprouvé, il vécut l'événement en unissant les épreuves de ses souffrances physiques et psychiques à celles du Christ. Là, c'est, si vous voulez, son évolution spirituelle personnelle. Symbiose intéressante au point de vue psychanalytique, car en formulant plus exactement cette oraison, et en pleurant, il aurait dit « Seigneur, je te demande de grâce avant de mourir. » Il sentait venir sa mort. Celle d'éprouver en moi dans toute la mesure du possible, les douleurs de ta cruelle passion et de ressentir pour toi le même amour qui te poussa à t'immoler pour nous. Au point de vue, je vais dire purement moral et spirituel, c'est très émouvant, c'est beau, hein, une grandeur. Hein.
Ça, maintenant, c'est un peu ça qui lui a valu d'être canonisé très très vite.
Disons que ça a fait partie du lot de choses.
Hein. Voilà. Parce qu'on n'a jamais vu ça.
Mais ce n'est pas spécifiquement ça.
Canonisé 4 ans après sa mort, on n'a jamais vu ça.
Oui, mais ce n'est pas spécifiquement ça, forcément. C'est ça, entre autres. Hein. Alors, Saint Bonaventure, qui a vécu à peu près, enfin que l'on connaît, de 1221 à 1274, a été franciscain, était d'origine italienne, puis maître d'université à Paris. Docteur séraphique, c'est-à-dire angélique, de l'Église, il a été cardinal archevêque d'Albano en Italie et décède à Lyon en 1274 durant le Concile de l'Union, ou appelé ainsi parce que dans ce concile avait failli se réaliser l'union entre les églises d'Orient et d'Occident. Alors justement, Bonaventure parle de l'épisode des stigmates de la vie de François d'Assise dans un ouvrage intitulé « Considération sur les stigmates ». Il y précise qu'à l'endroit des stigmates marquant le trou de la lance, la lance du Christ, hein, fréquemment le sang coulait, mouillant sa tunique et son linge. C'est un phénomène que médecins et psychiatres, surtout les neurologues, connaissent. Effectivement, la blessure peut être sanguinolente selon sa profondeur. Hein. Donc voilà, c'est un constat qui nous montre déjà l'aspect médical. Il poursuit en écrivant que cette première stigmatisation n'eut aucun témoin, mais laissa des traces bien visibles. D'autres témoins apportèrent que François d'Assise traversa à cette époque un surcroît de mystérieux tourments qui, pensèrent-ils, furent occasionnés par les mauvais comportements de certains de ses disciples. Ça, c'est tout à fait vraisemblable. On sait que, par exemple, son disciple, qu'il avait pourtant le plus chéri, d'une certaine manière, à savoir Élie de Cortone, avait été épouvantable. Un type qui a complètement s'est séparé de l'esprit de François au point de ne voir que l'argent et le pouvoir. Élie de Cortone voulait succéder à François pour dominer les franciscains, tout ça pour avoir un pouvoir. Bon, hein. Donc
ça peut arriver, ça.
Bien sûr, l'homme est toujours l'homme. Homo homini lupus est. Hein. Bon, alors. Justement, voilà, ces comportements ont fait souffrir. Mais vous savez, quand François a rédigé sa règle, elle était assez stricte en exigence de la pauvreté absolue, et on a obligé François à refaire une deuxième règle, plus cool, si je peux dire, sur la question de pauvreté. Inutile de vous dire que François a subi ça avec beaucoup de gêne et de souffrance. Hein. Donc, tout cela peut expliquer pas mal de choses au point de vue, je vais dire, psychologie et médical. Alors, les mêmes affirment que pourtant cela lui fut tempéré par des moments de sérénité et de joie spirituelle plus profondes. En témoignent, par exemple, ces fameuses litanies qu'il a écrites. Peu de jours après sa stigmatisation, vous savez, ces litanies, c'était « Bienheureux, notre frère Soleil », etc., etc. Le 30 septembre 1224, très ému, très bouleversé, il quitte le mont Alverne pour retourner à la portion culte, tout en souffrant atrocement des pieds, malgré les chaussures que Sainte-Claire lui avait confectionnées. Il a eu des maux occasionnés là par des stigmates aux pieds. Alors, une lecture psychanalytique des témoignages dont les considérations des stigmates seraient des plus intéressantes à effectuer, à condition qu'elle reste objectivement scientifique et non partisane. Parce que là, on rencontre les partisans du pour et les partisans du contre, et chacun y va d'une argumentation parfois délirante pour motiver ce qu'il dit. Donc, attention. D'après les témoignages, il ne semble pas que François d'Assise ait eu des prédispositions marquées durant sa jeunesse aux exaltations mystiques. Sûrement pas. C'était au début un bon militaire, buveur, joyeux, et excusez-moi de le dire, mais fréquentant les femmes, pas seulement pour leur faire des sourires. D'accord ? Voilà. Et si ces prédispositions, si elles n'apparaissent pas de prime abord, cela ne veut pas dire pour autant qu'elles n'aient pas existé. Mais elles ne furent pas décelées. Pas décelées parce que non existantes. Possible.
Ou est-ce qu'il y a un examen d'entrée au monastère qui décèle les perturbations, les angoisses existentielles,
alors,
tout ça?
Alors, dans les monastères déjà installés, ce qui n'était pas le cas de François d'Assise, puisque lui et Claire ont créé le monastère, dans les autres, oui, il y a un tout long temps d'expérimentation où les supérieurs examinent un petit peu le candidat.
On va retrouver François d'Assise dans 3 minutes.
Volontiers.
Bernard Vacheron.
Quand descend le soir, je vais seul m'asseoir sur le banc de bois. Mais tu n'es pas là, j'entends les pigeons qui roucoulent en rond. J'entends les enfants qui s'amusent à la guerre aux éléphants gaiement. Je vois tour à tour les amants d'amour échanger entre eux des baisers voluptueux. J'entends la chanson d'automne dans les arbres qui frissonnent. Quand descend le soir, que je vais m'asseoir sur le banc de bois, mais tu n'es pas là. Je vois une statue, cet homme de vertu a bien mérité la postérité. Ses cheveux trop longs tombent sur son veston, son sourire figé convient mal à son air un peu trop négligé. Destin des statues, d'être là têtu au fond des allées, tristement pour nous rappeler l'inventeur de la pomme de terre au spi du paratonnerre. Quand descend le soir, que je vais m'asseoir sur le banc de bois, mais tu n'es pas là. Le soleil s'éteint jusqu'à demain matin, les reflets dans l'eau sont ceux des vélos. Les ciné s'allument et déjà la brume enveloppe les toits, enveloppe le bois et toute la ville se noie dans un flot de passants. Au rythme incessant, c'est l'instant joyeux, c'est l'instant d'un monde merveilleux. C'est la foire des Invalides, aux petites autos je me décide. Quand descend le soir, que je vais m'asseoir sur le banc de bois, mais tu n'es pas là.
Toujours en compagnie de Bernard Vacherot, on est avec François d'Assise.
Oui. Eh bien, je disais que de déceler ou de ne pas déceler des prédispositions psychiques et spirituelles en même temps, à des émotions mystiques, c'est possible. Car finalement, hormis les témoignages honorifiques, donc forcément orientés, et moins rigoureusement objectifs, nous avons malheureusement trop peu de documents précis à ce sujet pour en juger scientifiquement et sereinement. Alors, c'est pourquoi je préfère dire que, ne pouvant avoir de certitude absolue sur le bien fondé de la croyance aux stigmates au plan rigoureusement scientifique, nous allons tenter de réfléchir au problème sur les données de la théologie en observant ces données selon les angles médiévaux et modernes. Théologiquement, surtout au XIIIe siècle, les stigmates, dont l'appellation vient, je le rappelle, du grec stigma athos, ce qui veut dire piqûre ou bien marque au fer rouge, rappellent théologiquement les cinq plaies du Christ occasionné par sa crucifixion, c'est-à-dire là, non pas par une manifestation psychosomatique et psychomédicale.
C'est bien les Romains, là. Là, par, c'est bien les Romains.
Oui, oui, mais par un fer de lance. D'accord ? Donc, là, distinguons bien les deux choses. Hein. Alors, il est intéressant de relever que l'acte de crucifier était une sanction infamante réservée aux pires condamnés à mort et qu'employer le terme non innocent de stigmate en pleine connaissance de son sens exact en grec, marque au fer rouge, accentue le côté infamant de l'acte exécutoire. Car on ne marquait au fer rouge que les esclaves ou les prisonniers. Or, aucun évangile ne précise exactement si le Christ fut cloué sur la croix. Il est seulement écrit « crucifié ». Saint Matthieu, en 27-33, dit « Quand ils, alors les soldats, l'eurent crucifié ». Saint Marc, 15-25, dit « Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. » Saint Luc 23-33 dit « Arrivé au lieu dit le crâne, ils, les soldats, l'y crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Parlant du lieu dit le crâne, c'est-à-dire le Golgotha, si vous voulez, bon, Saint Jean, l'évangéliste, est le seul des quatre évangélistes à préciser qu'en hébreu, le crâne signifie Golgotha, au verset 17. Et au verset 18, il se contente de dire, c'est là qu'ils, les soldats, le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu.
Alors là, il nous faut un témoin pour savoir comment on crucifiait alors. Si tout ce qu'on voit au cinéma est faux, c'est-à-dire qu'il y avait un marteau, des clous, l'horreur. Si on s'est contenté de l'attacher et qu'il meurt par suffocation.
Alors ça, c'est une autre thèse.
Alors.
C'est une autre thèse qui est apparue surtout au 19e siècle. Bon. Disant, mais à notre avis, il n'a pas été cloué, il a été attaché, en pensant que, par exemple, si je mets les clous dans la paume de la main, les os carpiens ne retiennent pas. Donc le corps s'affaisse.
Ah, il y a des gens qui parlent du poignet.
D'autres, justement, on dit cela. Problème, c'est qu'il peut y avoir à ce moment-là une détention, si j'ose dire, voilà, et que là encore, le corps s'évacue en avant. Donc, on a pensé beaucoup à des liens, des cordes.
Alors, si c'était le cas, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait évacuer des centaines de milliers de crucifix partout en circulation avec des grosses têtes de pointe. Mais quelle horreur ! Ou alors, il y a à nouveau marché, la croissance peut repartir.
On va revenir. Non, parce que c'est une question très intéressante que vous posez là en douce. Hein. Bon, enfin, en douce, avec toi, Jeanne, ça n'existe pas, hein, en douce. Donc, les pieds, par contre, auraient pu être cloutés. C'est possible. On ne voit pas, en effet, l'intérêt d'attacher à la corde des pieds sur un bois de croix. Ça aurait pu. Ce qui est beaucoup moins discutable, c'est le coup de lance. Parce que le coup de lance, c'était une habitude de la Légion romaine pour voir si vraiment le condamné était décédé, on le perçait d'un coup de lance. Et tout chef de Légion ou mandaté pour, qui n'aurait pas fait cela, était sanctionné. Donc là, il n'y a pas de tergiversation. Alors, ce qui est intéressant, tu as fait allusion, là, aux fausses reliques. Bah oui. Les fausses reliques, les faux coups de la croix. Bon, si je compte 2, 3, 4 clous, n'est-ce pas? Il y a une centaine de clous qui circulent dans les églises d'Europe. Hein. Alors bon, passons. C'est comme il y a à peu près une bonne cinquantaine de couronnes d'épines, si on fait toute la collection des épines que l'on trouve partout. Et quant aux croix conservées, il a été observé que si on mettait bout à bout tous les morceaux de croix que l'on trouve dans des reliquaires d'Église de France, on aurait bien au moins une bonne quarantaine de croix.
Mais qu'est-ce que vous me dites? Alors, ça serait comme le tapis de sel authentique Général Custer, il y en aurait plusieurs? Non.
Mais pourquoi pas?
On va commencer la semaine prochaine en abordant cette question de la crucifixion. Comment ça marche? Vous tournerez un mode d'emploi?
Non, parce que je ne sais pas faire.
À la semaine prochaine, Bernard Vachereau.
À la semaine prochaine, mon cher.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vachereau, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.